Je vous annonçais au chapitre précédent trois aspects de la création continuée, guetteur, gardien, pontife. Vous y avez peut-être reconnu les trois missions auxquelles tout baptisé est consacré, prêtre, prophète et roi. Guetteur pour la mission prophétique, gardien pour la mission royale. Voici maintenant la mission de prêtre ou de pontife, c'est-à-dire celui qui offre ou qui ouvre à plus haut. Voici le plan que je vous propose pour ce second grand chapitre, Cosmos et liturgie. Trois parties, l'universel gémissement, la joie du monde, ou le chant du monde, et la manifestation des fils de Dieu. Donc premièrement, grand A, l'universel gémissement. Probablement reconnaissez-vous cette expression, elle est de Grégoire de Nazianze, qui, au IVe siècle, en Cappadoce, écrit des poèmes liturgiques, dont « Ô toi, l'au-delà de tout », où nous lisons « Le désir universel, l'universel gémissement tend vers toi, tout ce qui est te prie, et vers toi tout être qui pense ton univers fait monter un hymne de silence. » Par gémissement, je n'entends donc pas d'abord plainte ou souffrance, mais bel et bien, comme le dit Grégoire, désir, montée d'une hymne de silence. Tout ce qui est te prie. Et vers toi, tout être qui pense fait monter un hymne de silence. En fait, cet hymne de silence, c'est celle de la création, des œuvres créées dont la vocation est de louer le Créateur, dont la vocation est de s'accorder, de déployer la puissance et la beauté du Verbe éternel. L'universel désir est donc celui de la louange. Nombre de nos poèmes bibliques l'attestent. À titre d'exemple, le cantique de Daniel, où vous avez les trois jeunes gens dans la fournaise qui chantent, ou plutôt qui font monter, qui font chanter tout le créé, puisque les paroles de leur hymne est quelque chose de tout à fait étrange. « Et vous, les vents et la pluie, bénissez le Seigneur, les animaux et les hommes, bénissez le Seigneur, les saisons et les montagnes, bénissez le Seigneur. » Et vous, la fraîcheur et les brumes, bénissez le Seigneur. Et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur, etc. etc. Et c'est donc une des louanges typiques que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Or, je dis que c'est ici la séminale liturgie du cosmos. C'est-à-dire, c'est là que commence toute vraie liturgie, dans cette espèce de désir du cosmos d'être beau, c'est-à-dire de chanter la grandeur du Logos Créateur, une sorte de liturgie première, chanter le Créateur. Tout vient de toi, ô Père très bon. Voilà la liturgie première, voilà celle de la création, sauf que l'homme a tout salopé. Par deux fois, la Bible médite sur le fait que notre vocation à nous humaniser s'est dévoyée, elle a quitté le chemin. Et, intuition incroyable, bien avant qu'on ait eu quelque idée que ce soit de l'écologie, et la terre en a souffert. Le péché de l'homme fait souffrir la terre. Il y a quelque chose de l'harmonie normale entre les créés qui a été défait. Il y a d'abord donc ce premier récit que vous avez reconnu, c'est le premier meurtre à Abel et Caïn, avec cette parole terrible, « Qu'as-tu fait ? Écoute le sang de ton frère crier vers moi depuis la terre. Maintenant, sois maudit et chassé de la terre fertile qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère dorénavant. Si tu cultives la terre, toujours le même mot, et elle ne te donnera plus son fruit. » Donc vous voyez, une espèce de brouille, parce que la terre a bu le sang du meurtre. Et puis, dans le livre de la Genèse, Nous voyons alors le mal tel une gangrène qui envahit tout. Soit par la violence, hein, après le chapitre 4 du livre de la Genèse, vous voyez, ça va très vite, soit par une douce perversion. Vous savez, aujourd'hui on connaît bien ça, consumérisme, guerre économique, pollution, obsolescence. Tant et si bien que la terre va vomir l'homme. Et c'est le récit du déluge. Le cosmos, un mot grec qui veut dire ordre, n'en peut plus. Il recrache l'homme comme un mauvais fruit. L'universel gémissement devient alors, en effet, une plainte, une souffrance. L'universel gémissement monte vers toi comme le cri de la terre qui a bu le sang du meurtre et qui endure encore les montagnes d'immondices dont nous la saturons. Sauf que Dieu ne va pas laisser tomber. Il confie, il reconfie à l'homme d'être lui-même et encore le gardien du cosmos. L'homme va devoir faire alliance, respecter, chercher les vestiges d'harmonie qui demeurent dans le monde créé et les exaucer. C'est là qu'entre en scène, et dans cette fonction de restauration et de louange et d'exaucement, c'est là qu'entre en scène l'architecture religieuse. Pensez-vous que ces bâtiments en Arménie, à Tatev, soient utiles ou nécessaires à cette toute petite communauté de moines installée dans les montagnes? Un dortoir ou des cellules auraient été bien plus utiles. En fait, il y en avait, bien sûr, mais d'une construction moins noble. Et du coup, ces installations n'ont pas tenu dans la durée. On a soigné ces bâtiments parce que c'est un lieu de culte et parce que c'est quasiment une icône. Cette architecture d'église est une icône, un efficace exaucement de la matière. La matière se trouve hissée, elle est comme rétablie, restaurée dans sa vocation de soulever le paysage, de le transfigurer, de le transformer en forme de louange. L'architecture, ici, vient exaucer, écrit comme ça, et exaucer, comme on exauce une prière. Exaucer, comme c'est écrit comme ça, c'est-à-dire grandir, rehausser. Elle porte, l'architecture porte jusqu'aux cieux, elle porte plus haut encore ce que la nature garde de sa naturelle louange, de sa naturelle vocation. Ici, on était en Arménie, et ici, on va en Italie du Nord, au lac d'Orta, et en son milieu, l'île du monastère de Guillaume de Volpiano, qui fut au début du XIe siècle un des promoteurs de cette architecture de louange dans l'Europe tout entière. Saint-Bénigne de Dijon, Tournus, Bernay et autres. Et cette fois-ci, il faut comprendre exaucement dans un autre sens, la nature veut cette création continuer. Elle veut prêter son concours à l'œuvre humaine. Elle demande au travail humain de libérer ses forces de louange et ses capacités à servir. La beauté du monde murmure encore la beauté du Créateur, mais elle est désormais muette. C'est l'homme qui va porter à la parole ce chant enfoui. Quand il l'a fait chanter par des poèmes liturgiques, par des formes architecturales, ou par la charité, le religieux, l'homme de foi, prête sa voix, prête ses mains, prête sa force, prête son intelligence à la nature et à la terre. En cela, il est prêtre, il est pontife. Quand le travail des hommes augmente l'esprit, ils répondent à la terre et elle, avec eux, répondent au Créateur. Nous sommes les gardiens de cette vocation. Le contemplatif qui lève les yeux vers les montagnes, psaume 121, sait que le secours lui viendra de ce regard qui sait voir le Créateur dans ce qui reste de son image dans la beauté du monde. Il répond à ce qu'elle veut, la création, de toutes ses forces blessées. Il répond, il reconnaît ce que Falk appelle l'amen de la création originaire. Comment allons-nous faire? C'est ce que je vous propose de voir maintenant dans les deux chapitres qui suivent, dans les deux parties qui suivent. Nous allons d'abord explorer cette louange des choses elles-mêmes, du monde si vous voulez, puis, chapitre suivant, comment l'homme œuvre à ses accordailles cosmiques. Nous en sommes donc là, la joie du monde, ou le chant du monde, pour reprendre le titre d'un livre de Jean Bester, un des penseurs de l'écologie chrétienne, qui avait juste 40 ans d'avance. C'est-à-dire, le chant du monde, la joie du monde, comment le cosmos est, par lui-même, en lui-même, une liturgie. Je vais exposer ça en trois points. Le premier est fort simple, et le moindre scout le connaît, enfin, en connaît un peu. C'est le jeu de mots entre kaleo et kalon. Le grec permet le rapprochement entre ces deux notions. Kalos, c'est le beau. Kaleo, c'est appeler. La beauté inspire, elle appelle l'esprit. Elle suscite le soupir extasié, vous savez, le « waouh » d'admiration. La beauté inspire. Admiration, saisissement. Ce que les médiévaux appellent la « captatio ». Vous êtes pris par la beauté. Pris par plus fort que vous. Pris par plus essentiel que votre commentaire. Pris par le haut, ou si vous voulez, mais c'est pareil. Pris par les tripes, c'est-à-dire... On est pris tout de nous-mêmes. Et dans cet emportement, vous avez le sentiment de n'avoir jamais été aussi bien, de n'avoir jamais été autant vous-même, autant en vérité, que ces instants, aussi fugaces soient-ils, où vous êtes saisi par plus grand que vous. C'est ça l'appel de la beauté. Et ça appelle à quoi? Ben ça appelle à plus grand, à plus large, à plus haut, à plus profond, bref, à vous-même oublié. La beauté éveille à votre vérité. Vous êtes fait pour cette grandeur. La preuve, dans ces instants de beauté et de saisissement, vous ne vous êtes jamais senti aussi bien. Et vous voyez qu'il y a un parallèle à faire entre l'amour humain et cette expérience de la beauté. On ne se sent jamais autant nous-mêmes, autant pleinement réalisé que dans ces instants de dessaisissement. Ou de saisissement, vous voyez, le jeu de mots est parfaitement possible. Kant, le philosophe Kant, Emmanuel Kant, parle alors précisément pour cet instant où vous connaissez l'ineffable avec évidence, il parle du sentiment du sublime. C'est au paragraphe 29 de la troisième critique, la faculté du jugement. 1790. Le sublime vous dit ce à quoi vous êtes destiné. D'abord, il vous dit que vous êtes destiné. Et en plus, il vous indique ce à quoi vous êtes destiné. À la beauté, à la grandeur, à plus haut, à l'infini. Non pas à vous fondre dans un sentiment océanique de bien-être, ça c'est trop statique, mais à vous orienter, à réformer votre désir naturel, à le hausser. Et donc, la beauté est bien une voie, appel, et une voie, un chemin. C'est ce que développera le pape Benoît XVI une lettre qu'il appelle la Via Pulchri Tu Dignis, la voie de la beauté, en 2012. La beauté s'impose, elle en impose, elle vous demande. Elle vous réquisitionne, pourrait-on dire. Voilà pour le premier point. Passons au second, que j'ai appelé très étrangement les bords du monde. Et on va faire un petit peu de tourisme pour expliquer ça. Nous allons à Istanbul. Ici, plutôt Constantinople, puisque cet édifice date du XIIe siècle, augmenté au début du XIVe, et décoré alors à grands frais, grâce à un mécène extraordinaire qui était ministre à la cour de Byzance, Théodore Métochites, membre du gouvernement impérial. Quelques années plus tard, vous le savez probablement, en 1453, Constantinople est prise par Mehmed II, et cet édifice tel que nous le voyons aura donc vécu de la liturgie byzantine, de la grande liturgie byzantine, pendant un siècle. Auparavant, il y avait bien sûr ici des chants byzantins, puisque le lieu existe comme refuge de moines dès 450. Mais je veux parler en particulier des décorations, mosaïques, fresques, qui sont comme telles de véritables acteurs de la liturgie. En vocabulaire de théologie catholique, on appelle ça des sacramentaux. Et ce sont des acteurs de la liturgie, c'est efficace. C'est-à-dire très intéressant d'aller visiter ce lieu. Or, cet édifice, Saint-Sauveur in Cora, est appelé, je viens de le dire, in Cora. Beaucoup vous diront que c'est parce que, au 5e siècle, voici le plan de Constantinople, au 5e siècle, le monastère se trouvait hors les murs, ceux de Constantin, c'est-à-dire les plus étroits, dans les champs donc, hors les murs, dans les champs, in Cora en grec. C'est ce qu'on vous dit habituellement, c'est ce que vous lisez dans les guides. Eh bien, je ne crois pas que ce soit la bonne traduction. Cora, c'est un mot qui, chez Platon, désigne le bord du monde, c'est-à-dire cet espace intermédiaire et dangereux entre la cité, le seul vrai îlot de cosmos, c'est-à-dire d'ordre, menacé sans cesse par le chaos qui est au loin, et autour de la cité, il y a une espèce de halo, une zone de protection, un pêle-mêle, quelque chose d'un peu hybride, la Cora. Vous vous rappelez, j'ai déjà parlé de ça, vous savez, dans mes visions du monde, dans mes 6 visions du monde. Et quand on dit donc Saint-Sauveur in Cora, on ne veut pas d'abord donner une indication topographique, comme pour dire que l'église se situait dans les champs à quelque distance des murailles, ce qui d'ailleurs est tout à fait inconcevable pour un monastère qu'on veut protéger. Mais on veut dire que le Christ est celui qui maintient hors du chaos. Il est au front, il est dans la Cora, et il fait face au chaos pour protéger le cosmos. Il continue à être le Verbe créateur qui sépare les eaux et écarte le tohu-bohu. Il est la paix, en ce sens qu'il fait face au chaos comme pour lui dire « Ici s'arrête l'orgueil de tes flots », comme nous lisons dans le livre de Job. Mais c'est une chose bien connue à l'époque, oubliée certes de nos jours, où nous faisons si aisément des promenades en forêt, et même des croisières en voilier, c'est inimaginable, du temps de Constantinople. On ne se rend plus compte comment cela est moderne. Eh bien, nous connaissons si bien cette idée de la foi qui pose un repère au bord du monde, que nous avons en France une des expressions architecturales les plus remarquables, le Mont Saint-Michel, nommé jadis Saint-Michel au péril de la mer. Saint-Michel qui terrasse le mal, ici est invoqué pour maintenir celui-ci hors de chez nous, pour le contenir. Vous voyez, le mal, c'est le chaos, c'est le chaotique. Et le Mont Saint-Michel est posté au bord du monde comme Saint-Sauveur in Cora, est posté en pleine Cora, à la limite, à la frontière du chaos. C'était le second point, nous avançons décidément avec le troisième point, les invités des noces. Un autre aspect de cette louange des choses elles-mêmes, c'est tout simplement leur intégration dans la liturgie. C'est ce qu'il y a de plus facile à comprendre. Les invités aux noces, c'est donc d'abord le peuple de Dieu, c'est nous, ce sont les premiers. Mais aussi la beauté du monde, et aussi tout ce que ce monde contient, et tout ce que dans ce monde veut exprimer sa beauté. Comment cela va-t-il se faire? Je vous donne plusieurs exemples et vous compléterez aisément. Il y a d'abord, c'est très connu, le bestiaire, tous les animaux. C'est très présent à la période romane, bien sûr. Mais un seul exemple, ici à Lusignan, on est au sud de Poitiers, où toute la voussure du portail nord est composée d'animaux, plus ou moins exotiques, des trucs qu'on reconnaît pas vraiment. Il figure l'immense variété du vivant, comme si c'était une couronne de la gloire du Créateur, et une porte pour la louange. Parfois, ces animaux ont un caractère allégorique. Souvent, c'est la lutte des vices entre eux, comme ici, ou bien la lutte de la vertu contre les vices, comme ici. Ou des animaux à caractère symbolique, comme le phénix, symbole de la Renaissance, à ne pas confondre avec le pélican, symbole de l'oblation, de l'offrande de soi. La nature, ses cycles, les travaux des champs, sont aussi sculptés depuis le monde carolingien jusqu'à la Renaissance dans les portails et sur les murs de nos églises. On voit partout le signe du zodiaque. Une autre charmante est celle des animaux de la crèche. On les trouve sculptés dès le 5e siècle. Mais c'est surtout, bien sûr, Saint François qui rendit très populaire la présence animale dans la piété, avec tout un tas de contes et puis ces crèches vivantes. Mais dès le 5e siècle, on y avait pensé. Les animaux font partie de la fête, font partie de la liturgie, comme tout ce qui doit porter la beauté en ce monde. Invitez aux noces également les fleurs, les arbres, les feuillages. Tous ces éléments de la nature sont, depuis la période baroque, très présents dans la décoration des églises. Pourtant, les invités de marque, si j'ose dire, ce sont le pain et le vin. Tous les deux très marqués de culture humaine. Ils signifient la culture. Ils signifient et appellent comme offrande et louange toute la générosité de la terre, mais aussi le soin qui apporte les hommes, la paix et la stabilité que nécessitent les travaux de la vigne et des chais. Tous les deux viennent encore offrir à Dieu le miracle de la fermentation, véritable alchimie vivante, si salutaire à l'homme. Et enfin, n'oublions pas toutes sortes de nobles matériaux que les artisans ont su œuvrer et transformer en véritable hymne. Voici un calice carolingien, vous voyez, qui est au musée de Cluny, et dont je voudrais bien faire mien, que je voudrais bien adopter pour célébrer dedans. Vous voyez que ça a beaucoup de signification de célébrer dans des objets qui ne sont pas du toc et qui ont une espèce de beauté, une espèce de matérialité. Il faut qu'il y ait du poids, de la matière, de la gravité exaucée. Voilà pour ce chapitre, nous faisons une petite pause.